بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعه الإسلام يا دو سمان دو سولا on avait expliqué le deuxième parcours de Dhulqarnayn vers le levant, ce qu'on appelle Matli' al-Shamsi. Et on avait vu que par le biais de l'étude menée par l'écrivain, celui qui a donc réalisé cet ouvrage, il a mené donc une enquête sur le terrain par le biais d'études du tafsir du Coran, par les données géographiques, topographiques, et il en est arrivé à la conclusion que le levant, comme cela est qualifié dans le Coran, hatta idha balagha Matli' al-Shamsi, cette zone du monde, ça correspondait à l'océan Pacifique et plus précisément un endroit particulier dans l'océan Pacifique, c'est les îles Kiribati. Et pourquoi cet endroit? Parce que on avait vu que d'abord il faut revenir à l'historique du voyage de Dhulqarnayn. Dhulqarnayn donc qui doit quitter l'Égypte. D'ailleurs Inch'Allah on aura une petite parenthèse sur la biographie bien de Dhulqarnayn depuis qu'il est encore en Égypte jusqu'à ce qu'il finisse ses différents voyages jusqu'au troisième et dernier voyage. Et donc Dhulqarnayn, lorsqu'il va à la découverte du couchant et du levant, il veut vraiment démontrer que le soleil, le premier endroit sur la terre qui est touché par les rayons du soleil ainsi que le dernier endroit de la terre qui est baigné par les rayons du soleil, ce sont des endroits qui sont vraiment qui ont une relation très forte avec Ash-Shams. Et le gros problème dans les croyances des Égyptiens, c'était l'adoration du soleil. Ils voulaient vraiment prouver aux gens que le soleil, ce n'est rien d'autre qu'une créature d'Allah Azza wa Jal. Et donc, dans le premier voyage de Maghrib al-Shamsi vers le couchant, on avait vu qu'il était parti sur l'équateur, parce que c'est l'endroit du globe terrestre où le soleil est le plus intense et le plus fort. Et la deuxième partie de son voyage, Matli' al-Shamsi, vers le levant, c'était donc, comme on vient de dire, dans l'océan Pacifique. Et on avait vu que pourquoi est-ce que le chercheur est arrivé à la conclusion que c'est cette zone géographique exactement, parce que l'île en question, qu'on a citée tout à l'heure, c'est le premier pays du monde qui reçoit les premiers rayons de soleil. Et on a vu également l'affiche, on va dire, publicitaire qu'ils avaient fait à l'aube de l'an 2000, dit que c'est la première zone au monde, la première zone de la planète qui va donc connaître le premier rayon de soleil de l'an 2000. Donc, géographiquement, c'est prouvé que cet endroit a donc une relation particulière avec le soleil. Et également, c'est un endroit, c'est une plaine, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien du tout, et le soleil baigne l'île entièrement. Et on a vu donc pas mal de qara'in, pas mal de preuves avancées par ce chercheur qui mène vers cette conclusion que Matli' al-Shamsi, le levant, serait cet endroit. Non pas comme parfois on dit le pays du soleil levant, c'est pas le Japon. Le premier endroit du monde qui reçoit les rayons du soleil, c'est les îles donc Kiribati, qui se trouvent donc dans l'océan Pacifique. Maintenant, Dhulqarnayn va continuer son voyage. Maintenant, il va se diriger vers un endroit qui est situé entre deux montagnes. Hatta idha balagha bayna as-saddayn. Mais avant d'arriver à l'étude de cet endroit qui, on va dire ça n'a pas beaucoup de secrets, on sait à peu près quel endroit Dhulqarnayn a complété donc son voyage. Mais avant cela, il y a une petite étude historique qui est pas mal du tout, qui a été faite par l'auteur, donc au beau milieu du livre, qui explique les différentes étapes de la vie de Dhulqarnayn. Alors, on va pas revenir sur ce qui a déjà été dit en introduction de la personnalité, la biographie de Dhulqarnayn. On avait vu que par le biais, là aussi, d'études historiques cette fois-ci, il en est arrivé à la conclusion que Dhulqarnayn est un homme qui a fréquenté Moussa alayhi salam, est un homme qui a connu donc la prophétie de Moussa alayhi salam, et c'est une personne qui appartient à la famille royale, à la famille des pharaons, parce qu'il pouvait se permettre de faire des remarques, il pouvait aller en choc frontal avec Pharaon sans risquer de se faire emprisonner ou exécuter ou autre chose. Et donc on avait vu que la conclusion de ce chercheur, c'est que Dhulqarnayn était donc un des empereurs égyptiens qu'on appelait Akhenaton. D'accord? Et on avait vu également, je ne sais pas si on a vu, que cet Akhenaton-là, son épouse, était une des femmes les plus connues d'Égypte qui s'appelait Nefertiti. Apparemment, elle serait également très célèbre pour sa beauté. Donc, c'est ce qu'ils disent dans les livres d'histoire. Donc, l'auteur découpe la biographie, les différentes étapes de la vie de ce on va dire, de ce fils d'empereur qui pourrait suivre les traces de son père et devenir quelqu'un de, un des grands pharaons de l'empire égyptien, mais qui a choisi le tawhid, l'unicité d'Allah. Qu'est-ce qui l'a amené vers le droit chemin? Il dit qu'il y a al-marhal al-oula, la première étape de la vie de Dhul-Qarnayn, c'est son enfance. Alors tout d'abord, le père de Dhul-Qarnayn s'appelle, alors en arabe c'est Amnahutab al-Thalith. J'ai essayé de chercher l'équivalent sur Google, sur les empereurs égyptiens. Le nom qui se rapproche le plus, c'est Mentuhotep, troisième du nom. Maintenant, ce que j'ai pas fait, moi, je suis pas trop historien, c'est comparer les dates par rapport au roi égyptien, ce que ça correspond. Là, on est à peu près en l'an 1425, 1450 avant Jésus-Christ, avant la naissance de Isa, 1425 à 1450 avant donc Jésus. On ne dit pas Jésus-Christ, pardon, avant Jésus. D'accord? Donc on est à cette époque, donc Akhenaton, qui est fils de Mentuhotep, troisième du nom, il est relaté dans les livres d'histoire. Là on parle de livres d'histoire, on ne parle pas de hadith. D'accord? Ce qui permet également, dans certains sens, sachant que c'est une étude cette fois-ci historique et par la suite géographique, d'avoir un peu de recul, on va dire un avis neutre. C'est pas qu'on dit que voilà, les textes disent et puis voilà, il n'y a pas d'autres preuves que les textes. Les études historiques disent qu'il y a eu un fils d'empereur, il y a eu un fils d'empereur égyptien qui n'a jamais voulu se prosterner devant des idoles. Il y a eu un fils d'empereur égyptien qui n'a jamais accepté, dès son enfance, de se prosterner devant les idoles et qui détestait profondément les sorciers. Nous savons quel était le rôle des sorciers dans le royaume des pharaons, des empereurs d'Égypte, d'une manière générale. C'était en même temps des gens qui avaient des pouvoirs, mais c'était également les moustachars, les gens les plus proches des empereurs égyptiens avec lesquels ils faisaient ces concertations. Et ils avaient donc une très grande influence sur les empereurs égyptiens. On va voir que l'influence est tellement forte que c'est un peu à cause d'eux que donc il va donc quitter son trône quelque temps après. Donc il est encore petit à cette époque, comme le prouvent les livres d'histoire. Il y a donc ce fils d'empereur qui n'a jamais voulu suivre la religion des parents, des grands-parents, et il refuse totalement le polythéiste. Et selon le chercheur, dit que certainement un des événements les plus marquants dans la jeunesse, dans la première étape de la vie de ce jeune fils d'empereur, c'est sa rencontre avec Moussa alayhi salam. Et lorsqu'on voit, on étudie la biographie de Akhenaton et que nous estimons à peu près par rapport au calendrier grégorien quand est-ce que Moïse, Moussa alayhi salam, a été envoyé comme prophète, ça correspond à la même, quasiment à la même époque. Donc ce sont des qara'in, ce sont des preuves encore plus par le biais des dates qui nous confortent dans le fait que cet homme, c'était Dhul-Qarnayn, qui a eu ce surnom par la suite, c'était Akhenaton, fils de Mentuhotep III du nom, et il a vécu à la même époque que Moussa alayhi salam, sauf qu'il était plus jeune que Moussa alayhi salam, mais ils se sont donc rencontrés dès les premiers moments dans l'étape de la jeunesse, qu'on appelle la première étape donc de la vie de Dhul-Qarnayn. La deuxième étape de la vie de Dhul-Qarnayn, selon le chercheur, quand il est un peu plus mature, un peu plus mûr, ça correspond au retour, ça correspondrait, on reste conditionnel, au retour de Moussa alayhi salam lorsqu'il s'était exilé à, où est-ce qu'il était parti? À Madian. Et c'est à Madian qu'il s'est marié. D'accord? Quand il y a eu des problèmes avec Pharaon, lorsqu'il avait tué une personne involontairement, et ensuite une personne l'a dénoncé, il a dû donc fuir. D'accord? Et il a fui par le biais d'une personne, un homme pieux qui lui a annoncé que Pharaon était à sa recherche. Alors, pour revenir, donc il est parti à Madian, il a trouvé donc ces femmes qui attendaient leur tour. Vous connaissez l'histoire, pour donner de l'eau à leur bétail, leurs animaux, il les a aidés et ces femmes ont fait le rapport à leur papa. Et leur père, c'était le prophète Shu'aib alayhi salam. Petite parenthèse, les savants disent que, voyez, plusieurs prophètes peuvent cohabiter à une même époque. Différents prophètes peuvent avoir une même mission à une même époque, mais chacun doit, on va dire, sa mission, j'allais dire, quadriller. On va dire que chaque prophète a une région, un village ou une zone à couvrir pour sa mission. À l'exception, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui, à son époque, n'avait aucun autre prophète et que sa mission était générale pour l'humanité. Donc, il va rencontrer Shu'aib alayhi salam qui lui donne un mariage, donc une de ses filles, et il va rester, si je ne me trompe pas, 10 ans.
فإن أتممت عشرا إلى donc complété 10 années où il est resté au service de Shu'aib عليه السلام. Et c'était donc ça une forme de dot. Hein, il a payé sa dot en travaillant pour Shu'aib عليه السلام. Et cet endroit c'était Madian. Et cette région Madian était en dehors de l'Égypte. Ce n'était donc pas sous l'influence des pharaons, de l'armée de Pharaon. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été poussés leur recherche jusqu'à Madian. Et donc, en retournant de Madian, c'est là qu'il va, selon le chercheur, de nouveau croiser le chemin de Dhul-Qarnayn, celui qu'on surnommera par la suite Dhul-Qarnayn, qui est Akhenaton donc, parce que Moussa a.s. va aller directement au palais de Pharaon pour l'inviter vers l'adoration d'Allah l'unique et l'expliquer quels sont les versets qu'Allah azza wa jal l'a révélés. Et donc là, il y a un échange magnifique, hein, ce sont des versets, on voulait photocopier mais on n'a pas fait parce qu'il fallait brancher la photocopieuse. Et on a plutôt une solution plus facile. On a pris quelques donc de photos de ces versets du Coran. Bon, on va pas faire un tafsir parce qu'on n'est pas dans un programme de tafsir non plus. Mais mashallah, juste pour vous donner les indications, si quelqu'un par la suite a l'occasion, on l'a, de faire une petite recherche de la traduction donc en français de ces versets, c'est dans le sourate Ghafir, d'accord, versets 22 à 46, versets donc 22 à 46, où il y a mentionné, on va juste parler d'un seul verset, quand Pharaon donc fait face à Moussa alayhi salam, il y a un homme qui s'interpose. Et le verset, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa'alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum wallahu la yahdi man huwa Musrifun kadhab. La traduction, ô mon peuple. Non, et voilà. Et un homme croyant de la famille de Pharaon. Vous voyez l'indication? Un homme croyant de la famille de Pharaon. Donc, c'est-à-dire qu'en se cherchant, il arrive à la conclusion que Dhul-Qarnayn, et on le dit bien, Dhul-Qarnayn, c'était pas son nom. À cette époque, personne ne l'appelait Dhul-Qarnayn. C'est un surnom qu'on lui a donné. Alors, là aussi, il y a deux avis. Certains disent qu'on l'a donné ce surnom par la suite, et d'autres disent que c'est quand il a entrepris ses voyages qu'il a changé son nom. D'accord, il voulait plus que les gens le connaissent sous le nom d'Akhenaton, mais plutôt un autre nom afin que, voilà, qu'il n'a pas de problème par rapport à son royaume. Donc, quand ce chercheur, il arrive à la conclusion que c'est Akhenaton, descendant donc d'un empereur, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de preuves par rapport au verset du Coran, par rapport au qasas, à l'histoire de Moussa alayhi salam, qui mène donc vers cette conclusion. Et donc, et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi. Un homme croyant, mais qui dissimulait sa foi. C'est pas quelqu'un qui avait dit à Pharaon, je suis, le verbe suit Moussa alayhi salam et j'obéis donc aux ordres d'Allah, l'adoration d'Allah l'unique. Non, là ça aurait été un véritable cataclysme dans la famille de Pharaon. C'est un homme qui avait la foi mais qui cachait son iman. Donc, et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah et mon Seigneur est Allah alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Et ainsi de suite, il y a donc pas mal de versets dans ces, ça fait à peu près 3 pages, hein, dans ces versets de 23 à 46, 20 ayats à peu près, où il y a cet homme qui s'adresse donc à la cour de Pharaon et qui prend la défense de Moussa alayhi salam, la défense oui de Moussa alayhi salam. D'autres versets comme وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد. Là c'est vraiment une prêche au mon peuple. Non, si on retrouve le verset, la photocopie aurait été plus clair, hein. C'est le verset 28 38. Et celui qui avait cru, on parle pas de Moussa là, celui qui avait cru, c'est-à-dire dans la famille de Pharaon, il dit « Ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. » Donc, si quelqu'un a la possibilité donc de lire ces versets, la traduction. C'est extrêmement intéressant. On voit les arguments de Pharaon qui sont, en guillemets, cassés les uns après les autres par cet homme. Et encore une fois, le seul qui pouvait se permettre de répondre à Pharaon devant sa cour, c'était quelqu'un qui fait partie de la famille de Pharaon, quelqu'un d'intouchable, quelqu'un à qui on ne pouvait rien faire. Donc, deuxième partie de sa vie où il prend position ouvertement en faveur de Moïse, de Moussa alayhi salam, face à Pharaon. Troisième étape de sa vie, là on va un peu plus loin, c'est après la destruction de Pharaon et de son armée. Et qu'il ne reste plus personne de la famille de Pharaon, à l'exception de celui qui avait cru en Allah, et donc c'était cette personne, donc descendant, fils de notre ami donc Mentouhotep, troisième du nom, et donc c'est lui qui hérite du trône. Et lorsqu'il hérite du trône, donc il va faire al-jahru bid-da'wa. Il va inviter les gens vers l'adoration d'Allah l'unique. Et là aussi, on avait dit qu'il y a dans des ouvrages, allez regarder sur Wikipédia ou autre manuel, autre support, on montre qu'il y a eu un empereur égyptien qui n'a pas suivi donc cette religion, l'adoration du soleil, quelqu'un qui allait vers d'autres croyances. Était donc c'était cet homme, Akhenaton, qui, selon lui, l'adoration du soleil, c'était du polythéisme, quelque chose qui n'avait aucun sens. Et donc, il a essayé de faire de l'adoration d'Allah l'unique la religion d'État. Et il a donc changé son nom en Akhenaton, parce que Aton, d'accord. Voilà, bon, là c'est de l'égyptien, c'est même pas de l'arabe. Ça veut dire Rabbu Shams. On va faire simple, hein. On va pas voir c'est quoi Akhé et Aton, c'est compliqué. C'est Rabbu Shams. C'est le Seigneur du soleil. D'accord. Donc, il a changé son nom. Celui qui adore donc, on va dire, le Seigneur du Soleil, plutôt que d'avoir des surnoms égyptiens qui prouvent qu'il adore le Soleil ou telle chose. Donc, il essaie, on veut bien dire qu'il essaie de faire du Tawhid, de l'unicité d'Allah, la religion d'État, mais il va être confronté à la résistance des Sahara. Parce que c'était une véritable tradition chez les Égyptiens d'avoir des sorciers. Ici aussi, c'est une véritable tradition. Mais là-bas, c'était, on va dire, encore plus fort. Et donc, il ne peut résister face à la pression des Sahara, des sorciers, d'autant plus que, et ça on avait dit une fois, qu'il n'a plus d'armée. C'est un pays qui n'a plus de force, qui n'a plus d'armée. L'armée a été intégralement détruite par Allah Azza wa Jal lorsqu'il a détruit donc Pharaon face à Moussa alayhi salam. Et donc, Dhulqarnayn, Akhenaton, n'a pas d'autre choix que de quitter la capitale, on va dire, politique de l'Égypte, qui était Touiba, et d'aller vers un autre endroit, une ville, on n'a pas le nom antique de la ville à notre époque, c'est une ville qui s'appelle Al-Amarina. C'est donc au milieu donc de l'Égypte, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, mais vraiment au centre de l'Égypte. Et donc là-bas, il va rester quelques années, et là également, il va propager l'unicité d'Allah. Donc ça, c'est la quatrième étape de sa vie, où donc il a quitté la capitale. Et il est en train un peu de s'éclipser peu à peu du royaume. Et selon les historiens, Akhenaton serait resté donc dans cette autre ville pendant à peu près 12 ans. Pendant 12 années, il est resté donc dans cette seconde ville, donc éloigné de la capitale de l'Égypte. Et là aussi, il doit faire face aux attaques des Sahara, des sorciers et tous ceux qui veulent renverser la tendance pour ramener la religion qui était celle des anciens pharaons. Et selon donc ce chercheur, c'est à cette époque qu'il a quitté l'Égypte pour aller vers d'autres contrées, dans le but d'inviter les gens vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc là, on est à la cinquième étape de sa vie, lorsqu'il quitte l'Égypte. Il quitte donc ce royaume, il prépare donc, ce sont des navires, une grandeur exceptionnelle, avec ses chevaux et tout ce qui vient avec, et donc avec quelques personnes, entre autres son épouse Nefertiti, et quelques proches qui vont donc le suivre dans ce périple. Et petite parenthèse, chose qu'on avait déjà abordée une fois, c'est le seul empereur égyptien dont on n'a pas trouvé le corps. On avait dit deux fois au moins que les Égyptiens avaient l'habitude de momifier les morts, surtout les rois. Et donc les sarcophages, c'était bien avant, hein, juste pour me mettre un peu la pression, les sarcophages étaient préparés à l'avance. Vous voyez, tranquille, les vivants, votre sarcophage est donc déjà prêt. Donc son sarcophage était déjà prêt, mais ce sarcophage est toujours resté donc vide. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'est le seul empereur donc égyptien. Il y a donc certains historiens qui disent que son corps était transféré à Théiba, mais c'est entièrement faux. Il n'y a aucune autre preuve historique qui va dans ce sens. C'est le seul empereur dont on n'a pas retrouvé le corps. Parce que donc il a quitté l'Égypte, il est parti ailleurs, il est resté donc dans d'autres contrées. Et de ces endroits-là, il a été donc au Maghrib al-Shams, au couchant, et Matla al-Shams au levant, et ensuite troisième endroit, le pays qui était entre deux montagnes, Bayn al-Saddayni, et on va voir ça la semaine prochaine, c'était donc l'empire de Chine. Donc c'est un des plus grands pays au monde, où il va rester assez longtemps et il va propager l'islam, il va faire le khidma de ce peuple, et donc mashallah, ce peuple va accepter le risala, va accepter le message de Dhul-Qarnayn. Et donc la sixième étape, c'était, bon, il considère chaque voyage comme une étape importante de sa vie, vers le levant, d'accord, on va y arriver, vers le couchant, une étape, vers le levant, une autre étape, et la septième étape, c'est lorsqu'il va donc vers la Chine. Et l'étape suivante, on va dire, c'est quand sa da'wa trouve réponse et que les descendants même de Dhul-Qarnayn, ils vont donc s'implanter en Chine, et on verra par la suite. On a déjà dit, c'est pas des choses amusantes à expliquer, parce qu'il faut aller dans les livres d'histoire, et les livres d'histoire de Chine ou d'Égypte et tout, ça va quand c'est en français, mais quand c'est en arabe, c'est pas simple, d'accord. Et on va voir que leur présence, c'est pendant 800 années, il y aura une présence des descendants de Dhul-Qarnayn dans l'histoire donc de la Chine. Alors jusqu'à maintenant, on faisait référence à des ouvrages, des encyclopédies sur l'histoire de l'Égypte antique. Maintenant, on va changer complètement de continent, parce qu'on va voir donc le voyage de Dhul-Qarnayn, hatta idha balara bayna saddayni wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, les deux montagnes, il trouva derrière elle une peuplade, qui ne comprenait presque aucun langage. Donc versets 92 et 93 de Sourate Kahf. Donc là, il va aller en Chine et il va donc rencontrer un empereur, donc une des dynasties chinoises. On va voir quel empereur, ça se situe à quelle époque, parce qu'il faut que dans la recherche faite par cette personne, cet historien, il faut qu'il y ait une concordance des dates. Il ne peut pas en même temps dire que voilà, ça correspondait à tel empereur égyptien, et puis quand il va en Chine, c'est 2 siècles de décalage, 3 siècles. Non, on va voir que ça correspond pile poil à quelques années près. C'est d'un côté tel empereur égyptien, et quand il arrive en Chine, c'est la dynastie de tel empereur chinois qui va donc solliciter son aide. Et on va voir, et il y a des fois, subhanallah, quelque chose qui m'est revenu aujourd'hui, que j'avais peut-être pas remarqué, dans le Sourate Kahf qu'on lit, mashallah, très souvent, tous les vendredis, il y a un verset qui nous interpelle. Ils avaient demandé, je sais pas si je le retrouve là, ils avaient demandé à Dhul-Qarnayn de construire, là j'ai pas le verset, subhanallah, cherchez la traduction surtout, de construire, voilà. Le mot, ils avaient demandé sadda, وبينهم sadda, une sadd, c'est une barrière. Pour ces Chinois, ils voulaient juste que Dhul-Qarnayn construise une barrière. Et les savants disent également, ça on verra la prochaine fois, que les Chinois ne savaient pas ce que Dhul-Qarnayn allait faire. La construction de Dhul-Qarnayn dépassait de loin ce qu'ils imaginaient. La seule chose qu'ils savaient faire, c'était des barrières, on va dire, fluviales pour les eaux. Et ce qui n'était pas suffisant pour séparer cette peuplade des Mongols et des autres, et des Ya'juj et des Ma'juj. Et donc, Dhul-Qarnayn dit, subhanallah, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Ah oui, j'avais un verset, on avait photocopié. Voilà, vous voyez le verset qui est, mashallah, qui est vraiment parlant. Alors, le temps qu'on retrouve. Voilà. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Ils ont demandé à Dhul-Qarnayn de construire une barrière, mais Dhul-Qarnayn savait qu'une barrière ne serait pas suffisante et il a proposé autre chose. D'abord, il a refusé le tribut, c'est-à-dire la rétribution, l'argent. قال ما مكنني فيه ربي خير Ce que il dit, ce que mon Seigneur m'a confié, m'a conféré, vaut mieux. Fa'inouni biquwa. Il a sollicité leur aide. Aidez-moi donc avec votre force. Aj'al baynakum wa baynahum radma. Et je construirai un remblai entre vous et eux. Radm, c'est traduit par remblai ou alors rempart. C'est quelque chose de beaucoup plus solide que ce que les Chinois voulaient. Et donc, le Coran décrit bien qu'il l'a construit avec nuhas, avec du cuir et du métal, avec des matériaux extrêmement solides, ce qui était une science totalement inconnue des Chinois. Et ce qui est vraiment impressionnant, et là on voit que le travail que ce monsieur a fait, vraiment c'est quelque chose de respectable. Hein, il a été voir les encyclopédies de la Chine antique, hein, A Traveler's History of China, d'accord, et ainsi de suite, qui prouve bien que le premier rempart pour se protéger d'un ennemi de tout l'empire chinois, c'était à telle époque. Et il donne une date qui correspond à la même dynastie que cet empereur qui aurait rencontré Dhulqarnain pour lui demander de construire un rempart de protection contre les ennemis. Donc il y a, mashallah, une concordance dans les dates, dans les faits, dans les événements qui nous amène vers cette conclusion qu'il a été donc en Chine, et c'est en Chine qu'il a trouvé ce peuple qui était opprimé, d'accord, et qui a demandé de l'aide contre ces deux populations, les Ya'juj et les Ma'juj. On va s'arrêter à la pause ce soir, inshallah. On en est à 26 minutes. En général, on fait 35 ou 40 minutes. Il y avait juste une petite requête qui a été faite par une personne, donc une dame qui avait posé une question. En général, quand les questions sont posées, c'est difficile d'aborder, de répondre, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais là, comme ça vient de quelqu'un, dont son mari, mashallah, c'est une des personnes avec qui j'ai le plus de muhabba, avait posé une question concernant les adhkar. Ça, c'est le sujet terminé, mais c'est quelque chose qui est profitable. Concernant les adhkar, les différents du'as qui sont masnoun, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de lire après chaque salat. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il me semble qu'on avait cité ça une fois, il y a peut-être un an et demi. Il est toujours bon de faire un rappel. Si la personne n'a pas retrouvé la trace, c'est que nécessaire parfois de rappeler. Ça, c'est important parce qu'on fait la salat 5 fois par jour, d'accord? Et malheureusement, très souvent, nous voyons des gens qui, dès que la salat est finie, se lèvent et s'en vont. Ça arrive, quelqu'un est pressé, on n'a pas à juger qui que ce soit, d'accord? Mais quand on voit que régulièrement, les gens quittent la masjid, ils s'en vont, c'est tout juste comme si que on se doute, est-ce qu'ils se sentent bien à la masjid ou ils ne se sentent pas bien? Si on ne se sent pas bien à la masjid, c'est qu'il y a un gros problème dans notre spiritualité, dans notre iman. Parce que le croyant, il doit vraiment s'épanouir dans la masjid. Et lorsqu'il est à l'extérieur, il est dans le bazar, dans le souk, dans les centres commerciaux ou autre chose, là qu'il doit se sentir mal à l'aise. Des endroits où il y a fitna, il y a des choses qui sont pas bien. Et dans la masjid, on doit trouver une quiétude. Et une des grandes tranquillités également, c'est que lorsqu'un croyant accomplit sa salat, il va lire les mêmes adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire. Parce que si on va suivre le mode de vie, on va suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses adhkar, assurément il y aura une bénédiction bien sûr, des récompenses parce qu'on suit une sunna, il y aura également une sakina, une tranquillité qui pèse sur les cœurs. Alors la première chose à retenir, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il officiait, c'était toujours lui qui officiait à salat en congrégation jama'a, à la fin de la salat, lorsqu'il lisait les adhkar, il le faisait à voix audible. C'est pas crier, j'aime pas le terme voix haute, c'est pas comme si on fait des zikr ensemble, mais lorsqu'il faisait le zikr, on pouvait entendre. Et ça, c'est une sunna qui est matrouka, malheureusement. C'est une sunna qui est délaissée. On a fréquenté des gens dans la ville sainte de Al-Madina, Nabawiya, dans certains endroits où les gens mettaient cette sunna en pratique, et c'était quelque chose de très beau. Après la salat, on entendait les gens. C'est pas un dhikr fait en même temps. Chacun le fait à son rythme, mais on entend tout le monde lire la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa ala kulli shay'in qadir. Et je vous assure que, sachant que ça c'est une sunna, c'est un dhikr qui est masnoun, ça fait un petit quelque chose de le cœur. Ça réveille quelque chose qui dormait. Ça vous fait ressentir, mashallah, l'unicité d'Allah dans le cœur. Et donc, après la salat, il faut essayer dans la mesure possible de consacrer 5 ou 10 minutes pour les adhkar, parce que ça va remplir notre iman de force, de spiritualité, de sakina, de raha, de tranquillité, et nous sommes dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en aucun cas faire passer des wazifa, comme on dit ici, d'autres lectures avant les adhkar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce serait préjudiciable. Si quelqu'un dit, oui, mais telle personne va dire, après la salat, fait telle, lit telle, telle chose, écoutez, s'il vous a dit, vous a dit, c'est à vous de voir, mais délaissez la sunna. Délaissez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pour suivre les conseils de quelqu'un d'autre, il y a un problème là. Parce que قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si on aime Allah, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le prophète, c'est pas uniquement dans la manière de s'habiller, dans la manière de porter la barbe et ainsi de suite, c'est également ce que le prophète disait, on dit. Ce qu'il lisait, on lit. Et ce qu'il lisait tout le temps régulièrement, on comprend, c'est quelque chose que nous aussi on doit le faire régulièrement. Alors quels sont les adhkar qui sont masnoun, qui sont relatés, qui sont authentiques, qu'on retrouve une trace dans les kutub de hadith, les livres de hadith, avec des chaînes de narration authentiques, d'accord? Parce que nous, on va se limiter à ce qui est authentique. Premièrement, après la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire trois fois astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ça, c'est premièrement. Allahumma anta as-salam, voilà, tout le monde connaît, wa minka as-salam, tabarakta wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Troisièmement, Allahumma a'inni ala dhikrika wa a'inna, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ça fait trois, pour l'instant on connaît. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire ce que nous on appelle le quatrième kalima, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Une fois après, donc pour tous les salats sauf pour la salat de fajr et la salat de maghrib, il lisait 10 fois le quatrième kalima. Il est dit dans certaines sources, si on avait prévu de parler de ça, j'aurais amené les hadiths, mais c'était pas, je les ai pas. Il est dit que celui qui après la salat de fajr, avant, et les textes du hadith sont d'une précision, mashallah, dit avant que la personne ne déplie ses genoux. Alors maintenant, j'ai pas été chercher dans les sharh, dans les commentaires du hadith, est-ce que c'est une métaphore, ou alors c'est à prendre au sens propre premier, que ne même pas changer de position, ou alors avant de déplier ses genoux, c'est-à-dire avant de se mettre debout et d'aller ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire immédiatement après la salat, celui qui lit donc 10 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, le hadith, je ne l'ai pas en tête, Allah lui accorde 10 récompenses, si je ne me trompe pas, ou augmente 10 de ses degrés, de ses daraja, et Allah efface 10 de ses péchés. Bref, il y a 3 vertus. Le troisième ne me revient pas à l'esprit, inchallah, on va le retrouver, on va chercher. Il y a 3 grandes récompenses en rapport avec le chiffre 10. Et les savants disent, subhanallah, combien de temps il nous faut pour lire 10 fois quatrième kalima? Il faut quelques secondes, au plus une minute. Donc si vraiment, après Fajr, il y a des gens qui doivent partir, c'est normal, acheter le pain et déposer les enfants à madrasa, c'est le choc de la vie de tous les jours. Mais quand même, voir des gens se lever, dès quand, salam alaykum wa rahmatullah, terminé, se lever tout de suite, dire que Allahu Akbar, pour 60 secondes, ils auraient eu tellement de récompenses, tellement de vertus, ne serait-ce que si on a 10 péchés effacés, Allahu Akbar. Quel grand ni'ma, qui nous dit que ce n'est pas ce péché-là qui nous enterre, que ce n'est pas ce péché-là qui pèse dans le mauvais côté de la balance. Donc mes chers frères, et pour les chers soeurs qui vont écouter aussi, extrêmement important de mettre en pratique cette sunna. Après Fajr, 10 fois le quatrième kalima, le tawhid, d'accord? Donc pour revenir, je passais 3 ou 4, quatrièmement donc, le prophète lisait donc soit une fois, soit 10 fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ensuite il lisait Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dal jadd minka al jadd. Ça fait 5. Pour l'instant, il y a rien de difficile là. C'est à peu près les adhkar qu'on connaît, mais il faut les coordonner et les mettre aussi dans le bon ordre et on aura suivi la sunna. Ensuite, la hawla wa la quwwata illa billah lahul fadlu. Là, jusqu'à là, c'est bon. Après, il y a un petit morceau que peut-être on connaît pas. Lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ça fait 6. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin wa law kariha al-kafirun. Ça fait 7. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait les mu'awwidhat, les versets de protection qui sont al-ikhlas, qul wallahu ahad, al-falaq, qul a'udhu bi rabbil falaq, et an-nas, qul a'udhu bi rabbin nas. Une fois, une fois, une fois. Sauf pour la salat de fajr et la salat de Maghrib où il le lisait trois fois. Mes chers frères et sœurs, celui qui peut mettre ça en pratique, subhanallah, avec vraiment, il faut vraiment ressentir que là, je vais faire les mêmes adhkars que le meilleur des hommes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après chaque salat. Et la sagesse qu'il y a également de le fait de lire ces adhkars, c'est une protection. De nos jours, beaucoup de gens disent, oui, il y a beaucoup de mal, il y a des gens qui vous veulent du mal, qui font des trucs nets, pas nets, sorcellerie, ou de la vengeance personnelle, ou le mauvais regard, on a peur de plein de choses, donc on va, le grand truc c'est ça, il y a un problème, tavise.com. D'accord? Téléchargez votre dernière version de tavise en format PDF et tout, et ou en format flash comme vous voulez, et voilà, on le télécharge, on se le tatoue, on se le grave, je sais pas quoi, et on va chercher des choses qui vont à l'encontre de la sunna, qui vont à l'encontre même du tawhid. Alors que ces doigts de protection, c'est pas juste comme quand on était petit, en m'adressant, on lisait ce qu'on appelle calément, hein, comme si que c'était des poésies qu'on lisait, on lisait, mais il y a une grande sagesse dedans. Il y a une puissance extraordinaire dedans. Dans ces paroles qu'on a l'impression que c'est des paroles d'une grande simplicité. Combien de fois on a lu quand on était petit, subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il y a des fois on se dit que oui, mais jusqu'à quand ça fait les bonnes enfants, ça, les mêmes affaires, changer et tout. Yahi, quand tu vas à Makkah al-Mukarrama, quand tu fais le tawaf de la Kaaba, c'est exactement ce que tu lis. Dans le meilleur endroit au monde, autour de Baytullah, c'est exactement ce dhikr que tu lis. Pour comprendre comment ce sont des adhkars qui sont extrêmement puissants et c'est la meilleure des protections contre tout ce qui est mauvais. Et donc, les savants disent également pourquoi, entre autres, hein, lire trois fois les mu'awidhat le matin et le soir, parce que le matin c'est pour avoir une protection pour la journée, et après Maghrib c'est la nuit qui commence, pour avoir une protection le soir, inshallah, jusqu'au lendemain. Donc la personne qui va le faire avec conviction, et surtout, et ça c'est le summum, le paroxysme, hein, c'est en plus de lire les mu'awidhat, de connaître la traduction et le sens, et l'histoire, le asbab et nuzul, comment lorsque Al-Falaq et Al-Nas ont été révélés, ça a délivré complètement le prophète sallallahu alayhi wa sallam du mauvais sang qui lui avait été jeté. La personne qui, quand il lit, dit que ça, c'est comme si que, après chaque salat, je mets un autre gilet pare-balles. J'allais dire une armure, mais on ne connaît plus c'est quoi une armure. Là, je mets un autre gilet pare-balles, j'en mets un autre, il n'y a plus personne qui me fait du tort. Donc réellement avoir conviction que ce sont là les meilleures des protections. Donc, et ensuite, avec ça, hein, dans certaines sources, il dit également, ça il faut que je revoie, c'est dans quel riwaya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque salat, il lisait 100 fois le quatrième calément. Bon là quand même, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps, mais le fait de le lire 100 fois, ça c'est authentique, thabit, ça c'est sûr, à 100%, qu'il est masnoun de le lire le matin. Et ça, c'est une grande protection contre le mal. Toutes sortes de mal. Rien ne touchera une personne qui a lu 100 fois La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, le matin. Après le fajr, celui qui l'a lu 100 fois, il faut 10 minutes. Ou alors, si quelqu'un le lit avec un peu plus de dévotion, de concentration, il faut 15 minutes. Mais si on vous dit qu'avec ça, vous avez garantie de protection. Quand on va voir un monde qui vous donne un tavis ou je ne sais pas quoi, il vous dit garantie de protection. Là, on dit merci, je crois à 100%. Mais quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous dit que ça, c'est une protection pour la journée, c'est comme si on dit, ouais, c'est bien, il faudrait le lire, basta. Et on ne le met pas en pratique, c'est parce que, en fait, on n'a pas de iman dessus, on n'a pas de conviction, on n'a pas de certitude. Après, il y a également les adhkars qui sont les autres adhkars sunnah après la salat, les 33 fois, subhanallah, alhamdulillah et Allahu Akbar. Si quelqu'un il le fait ça, il fait régulièrement, mashallah, il y a quelque chose qui naît dans son cœur en termes de spiritualité. Et on a grand espoir qu'Allah Azza wa Jalla nous inscrit parmi les « وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ » ceux et celles qui pensent à Allah beaucoup. Même si on ne va pas faire des tasbihats, des tahmid, etc. toute la journée, mais le faire 5 fois par jour de manière intense, on a grand espoir qu'Allah nous accepte et de toute façon, on aura mis une sunna en pratique. Donc, si on peut essayer de mettre ça peu à peu, progressivement en pratique et surtout ne jamais faire passer d'autres choses avant la sunna de notre prophète Muhammad al-Mustafa alayhi afdalu salat wa tammu taslim. Alors, la prochaine fois, inshallah, j'aimerais en finir avec parce que j'aimerais revenir vers un livre de religion, hein, parce que tant qu'il y a ce livre de géographie, d'histoire, c'est pas simple. Il faut deux autres temps pour préparer 20 minutes, 30 minutes, parce que c'est des termes qui, c'est pas des termes religieux, donc c'est pas un arabe facile aussi, c'est compliqué, c'est très complexe. Donc j'aimerais en finir avec la Chine, j'aimerais en finir avec ce redm, hein, cette barrière qu'il a construit, pour qu'ensuite on revienne un petit peu vers les textes des hadiths, où on voit donc la fin des temps, la sortie de Ya'juj ou Ma'juj, et donc revenir vers Ashrat al-Sa'a, et enchaîner, voir comment est-ce qu'ils vont être détruits par le biais de Isa alayhi salam, et enchaîner les autres signes de Qiyamah jusqu'à la destruction de ce dunya, c'est-à-dire revenir au but premier de nos interventions. Qu'Allah remplisse notre iman, notre cœur de iman, de conviction, et donne tawfiq de mettre en pratique, et avant tout d'être présent demain pour la fin de Fajr en congrégation, même si en ce moment c'est très tôt. Et quand je me réveille, je fais en sorte que tout le monde dans la famille fait cela. Jamais que je vais à la masjid et madame dort ou les enfants dorment. Les enfants qui ont entre 7 ou 10 ans. Fais en sorte que tout le monde, Inch'Allah, accomplisse la salat pour que ce soit une maison remplie de nour, de bénédiction de la part d'Allah. Azza wa Jalla. Jazakum Allah khair. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum Allah khair.